Bienvenue à l'émission Les Voix de service, une édition du 23 octobre déjà 2017. Mon nom est Claude Blas, merci encore d'être là et très heureux encore une fois d'être en compagnie à l'entour de la table de merveilleuses personnes, entre autres Franceline Nieuviard.
Bravo!
Merci, je l'ai appris cette semaine. Alors Franceline, comment ça va ce matin?
Oui, ça va bien et je vous propose déjà mes deux sujets.
Voilà.
Le premier tiré du journal L'Itinéraire à propos des élections, le sujet s'appelle « L'itinérance doit demeurer une priorité ». Et c'est donc par Pierre Gaudreau qui est directeur général du RAPSIM, le RAPSIM étant le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Et comme deuxième article, je l'ai trouvé dans Le Bel Âge, c'est écrit par Marie-Josée Lacroix et c'est « Bouger pour guérir ».
D'accord, merci beaucoup. Et on a naturellement monsieur à côté de moi qui est Roger. Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Bon matin.
Ça fait très beau, hein.
En forme. Alors, c'est on parle de quoi ce matin?
On parle de l'État québécois, du gouvernement. Un bon mot, vive les services de garde, d'une part, mais par ailleurs, où s'en va le bateau de l'État? Alors là, il y a des petits problèmes. Ça, c'est dans l'actualité.
Dans l'actualité, bon.
Et je vous parle ensuite d'un problème, d'un trouble oculaire qui serait douloureux. Ça s'appelle l'entropion.
D'accord. Bien hâte d'entendre ça.
Ouais.
De mon côté, on va parler un petit peu de prostate. On va s'attaquer au sujet sur les hommes. Donc, j'ai un petit article sur la prostate. Alors, on vous revient dans quelques instants. Alors, un premier sujet avec Franceline, allez-y.
Oui, alors mon sujet donc est « L'itinérance doit demeurer une priorité pour, en vue des élections municipales qui s'en viennent le 5 novembre prochain. Il y a 4 ans, Denis Coderre avait fait de l'itinérance une de ses 8 priorités. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Alors dans cet article, un retour sur les réalisations en logement et les défis qui demeurent, je vais vous lire cela. Moins d'un an après son élection, le maire annonçait en septembre 2014 l'adoption d'un plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017, un plan donc sur 3 ans. Le RAPSIM, qui est donc le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, avait alors souligné la pertinence de plusieurs de ces mesures. La ville visait l'ajout de plus de 1000 logements destinés à la lutte à l'itinérance, dont 600 nouvelles unités en matière de logement social. Plus de 500 sont réalisées ou le seront sous peu et d'autres sont prévues. Malgré un contexte difficile avec les coupes en logement de Québec, la détermination des organismes communautaires et le soutien de la ville ont permis donc cet important développement. La ville visait aussi l'ajout de 400 unités pour sans-abri sous la forme de projets novateurs. Mais presque rien n'a été fait à ce niveau. Pourtant, la Société d'habitation et de développement de Montréal, la SHDM, était identifiée à raison comme un des leviers de ces projets novateurs. Celle-ci avait contribué dans les années 80 à la lutte contre l'itinérance en achetant des maisons de chambre. Les autorités de la ville lui avaient ensuite retiré ce mandat et la SHDM a été activement mise à l'œuvre pour favoriser le développement de condos, une orientation qui demeure. En ce qui concerne les maisons de chambre, la ville identifiait la nécessité de continuer à œuvrer à la sauvegarde de ce parc de logements qui constitue encore pour certains un dernier rempart avant la rue ou un moyen d'en sortir. Tel que prévu, la ville a procédé à un nouveau dénombrement des maisons de chambre dans 4 arrondissements. Cette démarche permet de connaître l'état de ce parc qui continue de s'atrophier. Les constats sont inquiétants. Certaines maisons ont pu être sauvées, achetées par des organismes et transformées en logement social. Mais d'autres ont été converties en condos, en logements chers, en bureaux ou gîtes du passant, surtout dans Ville-Marie. La nouvelle stratégie centre-ville adoptée cet été, qui prévoit de densifier ce secteur, ne fera qu'accroître la pression sur les petites maisons de chambre, mais aussi sur les logements encore accessibles aux plus démunis. Le bilan du développement de logements sociaux en itinérance est positif, mais au global de ce dossier, cela est moins le cas. Non seulement le gouvernement du Québec avait réduit son aide, mais il avait aussi réduit la part des nouvelles unités destinées à Montréal, aussi peu que 36% du Québec. Montréal a aussi subi une baisse de sa part de l'aide fédérale, alors que le gouvernement Trudeau a ajouté des fonds de 50% pour la lutte à l'itinérance, il n'a accru ceux de Montréal que de 25%, et cette tendance risque de se maintenir. Alors, le prochain plan d'action en itinérance que la ville adoptera pour 2018-2020 doit réaffirmer des objectifs majeurs en matière de développement du logement social, des objectifs qui devront se concrétiser. Avec l'entente sur le réflexe Montréal et la loi 121 sur le statut de métropole, Montréal obtient plus de pouvoir, dont en itinérance et en logement. Quelle différence concrète cela fera ? Est-ce que cela permettra la réalisation de plus de logements sociaux avec soutien communautaire, incluant la socialisation des maisons de chambre ? Alors que Québec et Ottawa définissent leurs interventions en logement, quels budgets seront disponibles de la part de ces gouvernements pour le logement social et quelle part aura Montréal ? Les candidats et candidates aux élections doivent y voir. Des engagements clairs doivent être pris pour que le prochain mandat fasse une différence pour la lutte à l'itinérance. Montréal doit faire davantage pour assurer le droit au logement de toutes ses populations, au centre-ville comme dans tous les quartiers. Voilà donc ce texte écrit par Pierre Gaudreau, qui est directeur général du RAPSIM, et qui était écrit dans le journal L'Itinéraire du 15 septembre 2017.
Ce qu'on comprend dans ce texte, c'est qu'il coupe de plus en plus de budget.
Ben c'est ça, et qu'il y a eu quand même quelque chose de fait pour l'itinérance durant les quatre dernières années, mais ouais. Que l'avenir, il faut y voir.
Il faut en faire plus, parce qu'il y a de plus en plus d'itinérants dans la rue, effectivement. Autour de notre ami Roger Roy de nous parler un peu de où s'en va le bateau.
Oui, c'est le bateau de l'État québécois.
Ah, voilà. Oui.
Alors, c'est un long article qui paraît dans l'actualité du mois de novembre. Il est signé, cet article, par Alec Castonguay. Le gouvernement du Québec gère une bonne partie de ses ressources dans le brouillard, sans plan efficace pour savoir si l'argent public est bien dépensé. Alors, il s'agit d'une somme assez considérable. On joue dans les 100 milliards de dollars par année. Le nouveau bulletin des ministères de l'actualité révèle qui a une bonne boussole et qui navigue seulement à vue. En 2000, le gouvernement de Lucien Bouchard a adopté la loi sur l'administration publique qui visait à transformer la fonction publique afin qu'elle se concentre davantage sur les résultats concrets pour la population et moins sur ses propres besoins internes. Ce qu'on appelle dans le jargon du bureaucratique, le fameux processus. On s'occupe, on regarde ce qu'on fait à l'intérieur, puis on ne s'occupe pas nécessairement de ce qui se passe à l'extérieur, le résultat que ça peut donner. Une loi importante pour assurer le respect du contrat social implicite qui lie les citoyens et le gouvernement. Les Québécois paient des taxes et des impôts en échange desquels l'État assure qu'il va bien les gérer, leurs fonds, de manière transparente et qu'il va tenter de s'améliorer, notamment en publiant un plan stratégique. Un engagement fondamental. Alors que les compressions dans les dépenses publiques des dernières années ont soulevé des questions sur la qualité des services. 17 ans après l'adoption de la loi sur l'administration publique, l'actualité a décidé de faire le point et de créer le premier bulletin de la gestion des ministères du Québec. Lesquels ont un tableau de bord adéquat, mesurent les conséquences de leur politique sur les gens et sont ambitieux pour l'avenir, lesquels naviguent plutôt à vue dans la prestation de services, font le strict minimum en matière de transparence ou ne mesurent pas les répercussions de leurs décisions sur la population. Pour créer ce palmarès, le spécialiste en gestion et consultant Marc-Nicolas Kobrinski a étudié pendant des mois les plans stratégiques et les rapports de gestion annuels de 13 des plus importants ministères qui représentent 93 % du budget du Québec. L'étude a été validée par deux experts en gestion publique, Pierre Cliche, ancien sous-ministre, aujourd'hui professeur à l'École nationale d'administration publique, et Marie-Hélène Jobin, directrice associée du pôle santé à HEC Montréal. Seulement 4 ministères obtiennent la note de passage. L'ensemble échoue de façon globale à atteindre les cibles qu'ils se sont eux-mêmes fixées, même lorsqu'ils ont plusieurs années pour le faire. Un résultat aussi inadéquat doit forcer un sérieux examen de conscience de la part de l'ensemble de l'administration publique et du gouvernement, dit Marc-Nicolas Kobrinski. Alors, les meilleures notes du bulletin, ça va peut-être un peu vous surprendre. En tête de liste, c'est Travail, Emploi et Solidarité sociale. La qualité des plans et les indicateurs et les cibles. On se fixe des cibles à atteindre. On donne la note de 85 % Pour l'atteinte des cibles établies, c'est 62 % mais pour une note finale de 73 % Excellent plan stratégique, atteindre des résultats supérieurs à la moyenne, ombre au tableau, seulement 17 indicateurs au total. En deuxième rang, santé et services sociaux. Qualité des plans, indicateurs et cibles, 85 % comme note, mais atteinte des cibles établies, 52 % pour une note globale de 69 % Alors, on dit dans l'article que les santé et services sociaux ont le meilleur plan stratégique avec indicateurs pertinents pour la population et cibles claires, ne reste plus qu'à atteindre davantage de bons résultats. Mmh. En queue de liste, nous avons des ministères comme les finances, économie, sciences et innovation, et on souligne le cas du ministère de la Justice, qui est assez frappant.
On a hâte d'entendre.
Le ministère de la Justice reçoit une note globale de 33 %
Oh, quand même.
34 % pour la qualité du plan et indicateur de cible, et atteindre des cibles, c'est 32 % Alors, ils n'ont pas beaucoup de cibles à atteindre, de sorte qu'ils les atteignent tous, mais c'est très mince comme résultat. Alors, évidemment, l'article, toujours par Alec Castonguay, commence par ceci. L'ex-juge en chef de la Cour supérieure, François Roland, se souvient très bien du moment où il a pris conscience que les retards en matière de justice devenaient incontrôlables. C'était à l'été 2010. 6 ans avant que la Cour suprême du Canada donne un électrochoc au milieu judiciaire avec l'arrêt Jordan, qui permet à des criminels allégués d'être libérés en raison d'une attente avant procès déraisonnable, qui brime leurs droits. Je suivais la situation à la semaine. Je voyais bien que ça se détériorait et qu'on allait frapper un mur, explique François Roland, qui a été juge en chef de 2004 à 2015. Et le gouvernement aussi savait. Il gère des ressources et le budget, c'est quand même 900 millions au ministère de la Justice, était en mesure de voir la situation se dégrader à partir de 2010, lorsque des méga-procès de criminels ont commencé à embouteiller le système et que les dossiers en attente ont explosé. La culture de complaisance à l'égard des délais dans le système de justice criminelle, selon les termes de la Cour suprême dans l'arrêt Jordan, s'est poursuivie pendant des années. Le nombre de juges n'est pas le seul facteur en cause. L'embauche des procureurs de la Couronne n'a pas été à la hauteur des besoins, l'organisation du travail n'a pas été revue et aucune réforme majeure n'a été mise en place, par exemple, réduire le nombre d'enquêtes préliminaires. Ces répétitions générales avant procès, plus nombreuses au Québec qu'ailleurs au pays. Malgré les sonnettes d'alarme, le ministère de la Justice ne s'est jamais fixé d'objectif afin de diminuer les retards. Ses plans stratégiques 2010-2015 et 2015-2020 ne fixent aucune cible à atteindre. Au mieux, on y trouve une promesse d'élaborer des indicateurs clés de performance sur les délais en matière civile, pénale et criminelle d'ici 2020. Rien d'étonnant à ce que le ministère se classe dans le bas du bulletin de l'actualité. Pourtant, d'autres systèmes semblables au Québec, comme la Colombie-Britannique et l'Australie, ont fait de la diminution des retards une priorité depuis des années. Les cibles sont chiffrées, publiques, et les indicateurs sont réévalués régulièrement. Si le ministère s'était fixé des objectifs précis, la population et les parlementaires auraient été plus attentifs aux problèmes et auraient pu faire davantage pression sur le gouvernement, croit l'ex-juge Roland. La sensibilisation aux problèmes de la justice a été difficile. On n'y a pas consacré assez d'attention, dit-il. Pour terminer, l'actualité souligne par ailleurs qu'il y a un gros ministère là, qui s'appelle le MAPAC, a donné un bon coup de barre. Le MAPAC, c'est le ministère de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Agriculture. Mm-hmm. Et ça nourrit pas mal de Québécois, ça, c'est le MAPAC.
Oui, ça fait le tour.
Le MAPAC a fait un virage semblable à celui de la santé, là, qui a une très bonne note. À la fin 2013, conscient que le Conseil du Trésor s'attendait à ce que son prochain plan stratégique soit plus costaud. Après tout, le MAPAC encadre une industrie qui fournit 24 millions de repas par jour aux Québécois. La direction a donc repoussé d'un an le plan stratégique prévu pour 2014 afin de réfléchir à ses objectifs et à la manière de les mesurer. Sous l'impulsion du sous-ministre d'alors, Fernand Chambault, le plan stratégique 2015-2018 contient 70 % d'indicateurs axés sur les résultats, contre à peine 26 % pour le plan 2011-2015. Un exemple parmi d'autres, le MAPAC cherche à faire passer de 19 à 30 % la proportion de MRC qui participent à un projet de mise en valeur d'un potentiel alimentaire de leur région, une cible claire et précise selon les administrateurs et selon évidemment ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ce rapport publié dans l'actualité sur l'état des ministères au Québec.
C'est quand même une grosse machine à faire rouler.
Très grosse machine.
Et il faut se poser une question, en fait. Est-ce qu'on a encore confiance en le gouvernement pour l'administration de notre argent et nos taxes?
Ça, c'est quand même 100 milliards.
Et voilà. Donc, il faut faire confiance. On les a élus, hein? C'est ça. On vous revient tout de suite après une courte pause.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
La formation arcadienne qui nous reprenait la foule.
Eh bien, après avoir parlé de sujets très intéressants avec Franceline, l'itinérance doit rester une priorité, et avec Roger, ben, où s'en va le bateau? Ben, on va vous parler maintenant où s'en va le bateau du côté des hommes plus particulièrement, parce que j'ai un petit article pour vous, en vous décartiquant un petit peu ce qu'est la prostate, en fait, les taux de cancer, ainsi de suite. Donc, c'est un article que j'ai trouvé dans le Costco, Contact Costco, un article assez intéressant. Sur la prostate, c'est un article de Jeanne Langeville. Eh bien, en juin dernier, c'est un magazine du mois de septembre. Patrick Sullivan, membre du Costco et PDG de la Chambre de commerce de Halifax, a tourné une vidéo sur le cancer de la prostate, et ça, il l'a fait en kilt. C'était pour promouvoir la campagne « Caroté pour papa » de cancer de la prostate Canada auprès de 65 000 employés des membres de la Chambre, en fait. Le diagnostic et le traitement ont sauvé la vie de nombre de ses amis et associés, dont Philippe Crowley, éditeur et PDG du Globe and Mail, grand magazine en fait. Comme septembre est le mois de la sensibilisation à ce cancer, donc septembre dernier, c'était donc le moment de se renseigner sur la maladie, ses symptômes et ses traitements. Grosse comme un marron, la prostate est une glande de l'appareil reproducteur masculin dont les sécrétions se combinent au sperme naturellement. Le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes. Un Canadien sur huit recevra le diagnostic au cours de sa vie. En 2016, 21 600 hommes ont été diagnostiqués et 4 000 en sont morts, quand même assez important. Voici des symptômes courants. Miction difficile, douloureuse ou fréquente, surtout la nuit, envie urgente d'uriner, incapacité d'uriner ou difficulté à amorcer ou à arrêter le flot urinaire, éjaculation douloureuse et sang dans l'urine ou le sperme. Toutefois, beaucoup d'hommes sont asymptomatiques et ignorent qu'ils sont atteints. Si le cancer est dépisté assez précocement, le taux de survie après 5 ans ou 10 ans peut atteindre 100 %. Les risques, ben, c'est le risque de développer un cancer augmente dès l'âge de 50 ans et touche davantage les hommes âgés de 65 ans et plus. Le risque est supérieur si un parent au premier degré a eu la maladie, chez les Noirs d'origine africaine et caribéenne et chez les personnes en surpoids et dont l'alimentation est faible en fibres et riche en gras. Le dépistage se fait tout simplement de l'antigène prostatique spécifique, donc l'APS, qui est une analyse sanguine qui révèle le taux d'APS, une protéine produite par la prostate. Un taux élevé peut indiquer la présence d'un cancer. Le test de l'APS est important, mais c'est un indicateur à prendre en compte à la lumière d'autres facteurs de risque pouvant exiger un suivi. Et ça a été précisé par le président Recherche, promotion de la santé et soutien des survivants de cancer de la prostate Canada, M. Stuart Enman. L'organisation recommande à tous les hommes dans la quarantaine de passer un test sur l'APS pour établir leur taux de référence. Les résultats devraient guider l'établissement d'un profil de risque et d'un plan pour recueillir d'autres renseignements. Pour certains, il suffit de répéter le test 10 ans plus tard. Pour d'autres, il faut répéter le test plus souvent ou subir une biopsie. L'examen courant, le toucher rectal, naturellement, n'est pas parfait non plus, personne n'aime ça, mais il permet de dépister des bosses ou surfaces irrégulières où se trouvent la plupart, mais pas tous, les cancers de la prostate. Le médecin ne peut pas palper toute la glande au complet quand il le fait, donc, dit M. Enman. Un nouveau traitement, par contre, il est difficile de distinguer les cancers à évolution lente des formes virulentes sans test supplémentaire. Le taux de survie s'est beaucoup amélioré grâce au dépistage précoce et au traitement, encore une fois, dit M. Enman. Nous effectuons des recherches sur l'imagerie par résonance magnétique comme outil de diagnostic non effectif, contrairement à la biopsie. Une meilleure compréhension des mutations génétiques qui stimulent la croissance du cancer offre la possibilité d'étudier des traitements ciblés. Et encore une fois, M. Enman dit, selon des recherches récentes financées par Cancer de la prostate Canada, les hommes ayant un gène qui s'appelle BRCA2 défectueux, qui joue un rôle dans le cancer du sein ou de l'ovaire, sont plus susceptibles de développer un cancer de la prostate virulent. Donc, il réalise des essais cliniques avec des médicaments utilisés contre le cancer de l'ovaire qui cible le mécanisme de réparation de l'ADN. Donc, ça s'applique aussi au cancer de la prostate. Donc, je vous rappelle ce petit article que je l'ai trouvé dans le contact du magasin Costco. Intéressant. Et c'est un papier de Jeanne Langeville. Ah bon retour, Madame Franceline, vous avez des petites nouvelles pour nous.
Oui, assisterons-nous bientôt à la naissance de la robothérapie? Ce phénomène pourrait bien voir le jour en Chine, où le gouvernement envisage d'offrir un robot de compagnie aux 230 millions de personnes âgées du pays. Une initiative visant à pallier la solitude et à stimuler les aînés en leur offrant une présence. Aussi virtuelle soit-elle.
Oui.
Alors, robot de compagnie?
On ne sait pas.
Eh oui.
Pourquoi vous avez fait un signe de l'autre côté? Robot de compagnie, on ne sait pas.
Ah, moi, je vous donne une nouvelle qui est absolument insignifiante, mais peut-être, pour, je ne sais pas qui ça peut intéresser. 0,045 km à l'heure, c'est la vitesse idéale à laquelle le ketchup devrait sortir d'une bouteille de verre, selon les calculs de l'entreprise Heinz. À cette vitesse, savez-vous, les risques d'éclaboussures sont minimes.
Ah, mais c'est important parce que des éclaboussures de ketchup sur un t-shirt blanc,
ah, c'est vrai.
Ce n'est pas évident à enlever.
Et on sait que quelques personnes s'en amusent. Hein? On vous revient après la pause.
Je m'en vais au hasard, je garde tous mes rêves, je m'égare tout entier sur un long chemin sans trêve, poursuivi d'un passé qui se voudrait le mien, emporté par les vents, il n'en reste plus rien. Ya ba 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 bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Sur cette route infinie, en rêvant je voyage. Dans des lieux sans amour, je pose mes bagages. Dans cette ville qui m'accueille, ce sont mes derniers pas. Et je cherche le repos, mais ne le trouve pas. Ya ba 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 bye 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 bye. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. J'entends une voix à la ronde. Tu n'es pas seul au monde. Il ne reste qu'un hier et demain a disparu. Tant d'espoir m'abandonne et je ne rêve plus. Le jour où la moisson fleurira le désert, je pourrai retrouver mon soleil et la mer. Ya ba 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 bye 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 bye, j'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye, tu n'es pas seul au monde. Bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye, qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye, j'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye, tu n'es pas seul au monde.
Enrico Macias qui nous chantait « Tu n'es pas seul au monde ».
Ah, après, belle chanson d'ailleurs. On est de retour à l'émission Les Voix de Service Magazine après avoir parlé de deux sujets quand même assez intéressants, où s'en va le bateau avec Roger et avec Franceline, l'itinérance qui doit rester une priorité. Mais maintenant, on s'en va du côté du Reader's Digest, oui, où on va parler de « Enquête de vision ».
C'est ça, en quête de vision, à la recherche de vision, c'est un trouble oculaire. C'est Virginia Fisher Yaff qui écrit ce texte. C'est le ton qu'elle utilise, est humoristique un peu. Ah. Cela s'appelle un entropion et c'est une véritable pathologie. Pas un prétexte pour se faire payer un lifting des yeux par l'assurance maladie comme certains semblent le croire. Il est difficile à diagnostiquer. Madame, vous n'avez pas de problème. Ce trouble est débilitant. Imaginez un trillion de poils qui vous rentrent dans l'œil. Il est éprouvant pour un hypochondriaque. J'ai le sentiment que ce cancer des yeux aura ma peau. Et problématique, quand on manie la métaphore, je savais que j'en avais déjà trop vu dans cette vie. Cela se produit, l'entropion, quand la paupière inférieure s'enroule vers l'intérieur, contraignant les quelques 50 à 100 cils à vous frotter la cornée. Pour les 3% de personnes âgées touchées par cette pathologie, il devient pratiquement impossible de baisser les yeux. Une bien sombre perspective quand la lecture est l'activité principale de ceux qui ont toujours trouvé dans les mots une échappatoire à la souffrance. L'entropion est un petit farceur. La paupière s'enroule vers l'intérieur, mais elle se remet parfois en place, généralement lors de l'examen. L'ophtalmologue demande tout de même « Quand l'avez-vous remarqué la première fois ?» Réponse, à la plage. Vous aviez une protection, c'est-à-dire un préservatif sur l'œil, bien sûr. Vous avez probablement eu de la crème solaire dans l'œil, c'est tout. Vous pouvez rentrer chez vous, madame. Le lendemain, nouveau médecin. Est-ce que vous marchez dehors? Bien sûr. Alors, cette impression d'avoir quelque chose dans les yeux est sans doute causée par le vent, répond-il. Ne voyez rien d'autre. Vous pouvez rentrer, marcher moins et rester à l'intérieur. Est-ce que vous portez des lunettes de soleil? A-t-il aussi demandé. Non, par toujours. Eh bien, ça disparaîtra si vous en portez. Pour les yeux secs, utilisez un collyre ad infinitum. Puis, j'ai eu de la chance, l'adversaire insaisissable, l'entropion toujours, qui s'était défilé devant tous les autres, s'est montré chez leur dernier ophtalmologue. Oh, s'est-il écrié, ça doit être très douloureux. Je voulais l'épouser. Pour résoudre le problème, il n'y a que la chirurgie de la paupière, appelée blépharoplastie, et nous convenons aussitôt d'une date d'intervention. Me connaissant, j'avais mieux à faire que d'aller dans Internet nourrir ma peur de la cécité, de l'infection sévère, de l'allergie à l'anesthésie ou de l'hémorragie, la liste est si longue. grand absent de mes sujets d'inquiétude, mon orgueil. Certains proches y voient un trait de caractère positif, d'autres, et ils sont nombreux, pensent qu'il est néfaste, ça et mon peu d'enthousiasme envers le maquillage et les belles tenues. J'ai appris à mes enfants que la beauté était intérieure, et j'en suis persuadé, mais bien que mon apparence ne me préoccupe pas outre mesure, comment me sentirais-je si la main du chirurgien venait à trembler au mauvais moment? Je n'ai jamais rêvé d'arborer une cicatrice au visage. L'opération s'est déroulée sans anesthésie et le chirurgien expliquait à ses étudiants les étapes de son travail. Et elle écrit, c'est toujours Virginia Fisher-Yaff qui parle, « Les mots virevoltent, infiltration sous tenon, limbe, durmère, sclère équatoriale, bordure du tarse inférieur, cantus latéral, a dit, je suis sûr que c'était les bons termes parce que je ne les comprenais pas. Mais j'en connaissais d'autres. Scapelle, lame, pas si vite, ici, essayez l'autre œil, trop de sang, attention aux marges, il vaut mieux éviter de blesser le globe, plus serrer les rétracteurs, s'il vous plaît. Je n'avais pas non plus prévu de voir tous les instruments au moment où ils entraient en contact avec ma peau, chose assez prévisible puisque mes yeux restaient ouverts. Quand j'ai peur, je les ferme et je cherche la paix au plus profond de mon être, ce qui s'est révélé plutôt difficile devant le balai d'objets tranchants s'agitant rapidement sur une trajectoire descendante. J'ignorais combien de personnes il y avait dans la salle d'opération, ne pouvant voir que directement au-dessus de mon visage, mais je sentais de nombreuses mains rassurantes s'affairer sur mon cas. C'était une équipe céleste. Je me suis demandé comment on pouvait supporter un entropion dans le tiers-monde. La réponse est claire. Occupé à sauver sa peau, on fait peu de cas de quelques poils rebelles. Quelle chance de vivre au Canada. Tous ses ancêtres venus chercher ici la liberté, eh bien, ils ont trouvé plus encore. J'ai été submergé par une vague de reconnaissance alors même que mes yeux étaient recouverts de gaz. Soudain, je ne voyais plus rien. Ça non plus, je ne l'avais pas prévu. Je comprends mieux que l'hôpital ait insisté pour que quelqu'un me raccompagne à la maison. Je suis en train de guérir. J'ai l'air d'avoir perdu un combat contre Mohamed Ali. Les points de suture tiraillent et j'ai du mal à dormir, mais une fois guéri, il est certain que ma vie s'améliorera.
Quand même. Texte. Heureusement qu'elle était, oui. Elle était quand même assez persévérante. Hein,
oui, dans ses recherches. Après la consultation de plusieurs experts, j'ai décidé de l'opérer en quête de vision. Le petit, hein, l'entropion.
L'entropion. Il faut se souvenir de ce nom. On vous revient après la pause avec Franceline. Après avoir parlé des yeux, eh bien là, on vient de faire notre exercice de quelques secondes, hein, Franceline?
Oui.
Non, maintenant, on va bouger pour guérir.
Oui, c'est ça. C'est plus peut-être pour la... Enfin, avant, quand on était en convalescence, on disait qu'on ne fallait pas bouger. Et effectivement, devoir bouger en période de convalescence paraît contradictoire. Hein, on se dit... Mais aujourd'hui, on dit que des activités physiques adaptées contribuent pourtant à se remettre en forme, ça diminue l'anxiété et ça améliore la qualité de vie. Alors aujourd'hui, après une intervention, on donne beaucoup de conseils justement pour bouger, pour mieux guérir. Alors c'est un article que j'ai trouvé dans la revue Le Bel Âge, qui est écrit par Marie-Josée Lacroix, et c'est Le Bel Âge d'octobre 2017. Que ce soit après un infarctus ou un remplacement du genou, en sortant de l'hôpital, on a perdu beaucoup de ses capacités physiques. Tout type d'activité peut apporter des bénéfices, tant pour le quotidien que pour éviter les risques d'aggravation de la condition, explique le kinésiologue Francis Gilbert. On oublie bien sûr les efforts soutenus au début. Quand le médecin l'a autorisé, on recommence à se livrer à nos activités quotidiennes, du genre travaux ménagers, courses, jardinage, marche, montée et descente de l'escalier. Pour assurer la sécurité, il faut respecter les limites établies par le médecin. Normand, 57 ans, a subi un triple pontage en septembre l'an dernier. Je suis revenu chez moi 4 jours plus tard, assez affaibli. Le cardiologue, qui me savait sportif, m'a dit d'y aller selon ma capacité et à mon rythme. La durée de pratique dépend de la condition de chacun et de l'activité. Nous recommandons de plus en plus des activités plus intenses, mais de courte durée. Par exemple, marcher d'abord un peu plus rapidement pendant une courte période, puis poursuivre à un rythme régulier, explique le kinésiologue. Il s'agit d'écouter les signes de fatigue ou de douleur que le corps nous envoie. On atteint la limite, mais sans la dépasser. Ensuite, selon l'amélioration de notre condition, on recule la limite en allongeant graduellement la durée. Normand a d'abord suivi les recommandations de son médecin. Après 5 ou 6 jours à la maison, j'ai commencé à marcher dehors, dit-il. La première fois, j'étais au bout du rouleau après 150 pieds seulement. Puis c'est devenu de plus en plus facile. Après 3 semaines, je marchais de 7 à 10 kilomètres par jour. Je suis sportif, hein, il le disait. En novembre, le cardiologue m'a donné son accord pour retourner au gymnase et m'a fait rencontrer un kinésiologue pour établir un programme. Normand s'est remis au vélo stationnaire le mois suivant et au vélo extérieur au printemps. On trouve des professionnels de la mise en forme dans les gymnases, les hôpitaux et certaines cliniques aujourd'hui. La majorité des fédérations médicales, maladies du cœur, cancer, arthrose, collaborent avec des kinésiologues pour développer des programmes d'exercice. Il est fortement conseillé d'en consulter un pour reprendre des activités répondant à notre niveau et progresser en toute sécurité, en salle ou à l'extérieur. Toute activité est bonne selon la capacité de chacun. On choisit selon nos besoins et nos intérêts. Marche, vélo, natation, aquaforme, yoga, ski de fond, ski alpin. On varie et on alterne les exercices légers et plus aérobiques. Il est important de s'assurer qu'ils se complètent pour en retirer le maximum. On préfère s'entraîner à domicile en convalescence. Un spécialiste évaluera notre capacité et établira un programme personnalisé, court et simple. On utilise par exemple des élastiques pour effectuer des tractions qui sollicitent le dos, des poids légers pour stimuler la musculature ou des ballons. Les exercices peuvent aussi inclure des genuflexions, des pompages et des abdominaux au sol. Cette routine de 15 minutes ne nécessite pas d'équipement important ni de gros investissements. Quand c'est possible, on maintient aussi l'activité physique avant une intervention chirurgicale, ajoute Francis Gilbert. Ainsi, Normand s'est entraîné modérément au gymnase jusqu'à 2 jours avant ses pontages. Cela assure 75% de la réadaptation. C'est la clé du succès. Et une fois la réadaptation complétée, pour préserver sa condition physique récupérée, on évite toute dégradation. Pour entretenir la motivation, on se choisit des activités que l'on aime pratiquer. On continuera si on a du plaisir. Souvent, la socialisation joue également. Dans un groupe que j'anime, certains confient parfois être venus d'abord pour voir les autres. S'inscrire à un cours de yoga, prendre un abonnement au gym ou adhérer à un groupe de marche incitera à participer et bouger avec des personnes en santé, cela stimule. Mmh. Voilà, donc, bouger pour guérir, hein, l'hiver approche et je crois qu'il faut continuer à bouger.
Ouais. Et trouver surtout ce qui vous fait plaisir.
Absolument.
Alors, c'est pas nécessairement s'abonner au gym, c'est pas nécessairement la marche. Trouvez vraiment ce qui vous fait plaisir et allez-y avec des étirements aussi, c'est très, très important pour l'exercice. On vous revient dans quelques instants. Bon retour, on vous revient avec un article de Roger qui, lui, nous dit que vivent les services de garde.
Oui, les services de garde, c'est un des succès de l'État québécois. C'est Pierre Fortin qui nous en parle dans l'actualité du mois de novembre. Il écrit ceci. En 2016, 85% des Québécoises de 20 à 44 ans ont occupé un emploi ou s'en sont cherché un. C'est le plus haut taux d'activité féminin observé dans les pays avancés. Les Québécoises ont maintenant rejoint les Suissesses au sommet mondial, loin devant les autres Canadiennes qui sont à 80% et les Américaines à 73%. En 1996, le taux d'activité des Québécoises de cette tranche d'âge était de 75%. Comment expliquer cette hausse époustouflante en 20 ans? Les travaux menés sur cette question sont unanimes. Le programme universel de services de garde à tarifs modiques lancé par Lucien Bouchard il y a exactement 20 ans cet automne a été un facteur déterminant. Même après la hausse du tarif selon le revenu introduite par Philippe Pouillard en 2015, les frais de garde restent de 4 à 5 fois plus faibles au Québec que dans les autres provinces. En moyenne, en 2016, faire garder son enfant coûtait 10 $ par jour au Québec. À Ottawa, c'était 47 $, à Vancouver, 49 $, à Toronto, 54 $. Les avantages du système québécois sont majeurs. Dans un monde où deux revenus ne sont pas trop et où les femmes sont plus scolarisées que jamais, la majorité des parents considèrent que des services de garde accessibles, abordables et de bonne qualité offrent un complément hautement désirable aux soins parentaux. C'est pourquoi le régime québécois a eu un effet positif si important sur l'activité des mères. Il y a 20 ans, 64% des mères québécoises d'enfants de 5 ans ou moins étaient dans la population active. Aujourd'hui, elles comptent pour 81%. Le régime québécois soutient l'autonomie financière des femmes de trois manières. Premièrement, en plus de permettre au revenu total de la famille d'augmenter, il accroît la fraction de ce revenu qui est sous la responsabilité de la femme. Cela améliore l'équilibre du pouvoir dans les décisions du ménage. Deuxièmement, un bon régime de garde permet plus de continuité et moins d'interruptions dans les carrières féminines. Les femmes peuvent ainsi obtenir des hausses de salaire plus importantes dans leur vie active et ce, plus rapidement. Troisièmement, à notre époque, il faut concevoir l'emploi de la mère comme une police d'assurance contre le haut risque de séparation du couple. La probabilité pour une femme de vivre une rupture moins de 10 ans après sa première union dépasse aujourd'hui 50%. Retourner à un travail stable en accédant à des services de garde abordables à la fin du congé parental constitue une assurance efficace contre le risque financier que représente une séparation future. Des familles pauvres ne font pas des enfants forts. Il y a 20 ans, 100 000 familles monoparentales avaient recours à l'aide sociale au Québec. Aujourd'hui, on en dénombre 35 000. L'accès des mères à un emploi stable qu'a facilité le régime de garde québécois a contribué à cette heureuse évolution. Enfin, le financement québécois des services de garde est universel. Il est ouvert à tous les enfants et non pas réservé à ceux qui viennent de familles à revenus modestes ou faibles. C'est une bonne chose pour deux raisons. D'abord, les deux tiers des enfants qui présentent un sérieux retard de développement sont issus de familles de classe moyenne ou de familles riches. Pour que le système de garde à l'enfance puisse s'occuper de l'ensemble des jeunes vulnérables, il est essentiel qu'ils en soient tous participants, quelle que soit leur origine socio-économique. Seul un système universel peut parvenir à cette fin. Ensuite, contrairement à un régime qui serait réservé aux enfants défavorisés, un régime universel s'autofinance. Il engendre un surplus budgétaire. Le coût de financement du système universel est plus que compensé par les revenus fiscaux que les nombreuses mères nouvellement attirées dans la population active versent à l'État. Non seulement le système universel ne coûte-t-il rien aux contribuables, mais le surplus budgétaire qu'il dégage peut, si on le désire, être réinvesti dans la qualité des services de garde et la réponse aux besoins spéciaux des enfants défavorisés. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos vient de décider d'aider financièrement les provinces, y compris le Québec, à développer leurs services de garde. Bien qu'encore modeste, cet investissement est particulièrement bienvenu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et on donne le résultat, le taux d'activité des femmes de 20 à 44 ans en 2016 dans plusieurs pays. Là, le Québec et la Suisse en tête à 85%, la Suède 84%, le Portugal 84%. L'Espagne, 80%, le Canada, 80%, l'Allemagne, 79%, la France, 78%, et en queue de peloton, les États-Unis, à 73%. Alors, c'est un texte intéressant de Pierre Fortin dans l'actualité « Vive les services de garde ».
Oui, on parlait un peu plus tôt, hein, où s'en va le bateau avec le gouvernement, mais on peut dire que celui-là, c'est un bon programme quand même pour aider les gens. Ouais. On vous revient après une pause musicale.
Quand revient la chaleur de l'été, je me sens attiré par tes yeux qui me promettent encore des baisers sur le corps. J'ai jeté mes regrets dans le feu, attisé, amoureux. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Je préfère m'en aller loin d'ici, dans les bras d'un amour qui fera ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Je préfère m'en aller loin d'ici, dans les bras d'un amour qui fera ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Voudrais-tu me retrouver un jour?
Annie Briand et Rock Voisine nous chantaient « Se retrouver un jour », c'est la version française de Kinsera.
Alors, de retour à l'émission, on va aller avec des brèves, Franceline?
Oui, j'en ai une. 26 %, c'est la proportion d'aînés canadiens qui veulent conserver leur permis de conduire après 85 ans, d'après un récent sondage de la firme State Farm. Pourquoi y tiennent-ils autant? Les trois quarts des répondants avouent redouter la perte d'autonomie qui en résulterait, tandis que 12 % citent leur incapacité à détecter la perte des habiletés de conduite, 6 % le manque de transport public et 4 % le coût élevé des taxis. Mmh. Voilà, donc permis de conduire après 85 ans, 26 % le souhaitent.
Il y a quand même. Et Roger?
Grand dilemme pour les amateurs de vin, bisbille autour d'un grand cru. La plus vieille bouteille de vin du monde, elle aurait 1650 ans, se trouve aujourd'hui au cœur d'un débat. Devrait-on l'ouvrir ou pas? Des scientifiques aimeraient bien analyser le précieux liquide que contient cette bouteille, tandis que les œnologues préfèrent le laisser tranquille, estimant que de toute façon, il n'offrira rien de spectaculaire en bouche. À défaut d'y goûter, il est possible de l'admirer au musée historique du Palatinat à Spire, en Allemagne. Une belle bouteille. Oui. 1650 ans.
Quand même. Hein? Une belle bouteille. On voudrait goûter? Non, c'est pas possible. Moi, je vous parle un peu de ce qui s'est passé pour un 23 octobre dans les années antérieures, côté éphéméride. Ben, imaginez-vous que c'est la naissance du footballeur brésilien Pelé. Je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Ouais, très bien connu à travers le monde. Ça s'est passé, c'était en 1940. En 1942, c'était le début de la bataille de Hy à Almin en Égypte qui verra la victoire des Britanniques du général Montgomery sur les Allemands de Rommel. En 1950, je ne sais pas si vous le connaissez, mort du chanteur américain Al Jolson, vedette du premier film parlant, le chanteur de jazz. En 1954, les accords de Paris signés entre la France et la République fédérale d'Allemagne, ou on appelle communément la RFA, mettent fin à l'occupation de la Sarre et autorisent la RFA et l'Italie à accéder à l'OTAN. Et soulèvement anticommuniste à Budapest en 1956, ça s'est passé à ce moment. Alors voilà, c'est tout pour l'émission. On remercie Franceline et Roger. Encore une fois, très agréable de vous avoir entendu cette semaine. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour une autre émission.
Oui, à la semaine prochaine.
Au revoir. Bonne semaine.